إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on se retrouve donc aujourd'hui pour continuer cette série de cours dans laquelle nous nous rappelons certaines choses qui font partie des provisions utiles à l'adorateur. Et il n'y a pas de doute que l'objectif de tout adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'obtenir l'agrément et la satisfaction de son Seigneur subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir accéder à son paradis. Ce paradis, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Ensuite il dit, lisez si vous voulez, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour leurs yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. On voit donc à travers ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ses serviteurs vertueux de nombreux délices dans ce paradis qui sera éternel. Et on voit à travers le verset qui nous est cité dans le hadith que ce paradis, il est réservé pour eux, pour ses serviteurs vertueux, en récompense de quoi ? En récompense de ce qu'ils œuvraient. On comprend donc de cela que pour atteindre ce paradis, il nous incombe de nous parer de certaines caractéristiques, c'est-à-dire d'accomplir certaines œuvres qui font partie des œuvres qui nous mèneront au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il nous a décrit les gens du paradis, c'est-à-dire qu'il nous a donné certaines des caractéristiques par lesquelles les gens du paradis se parent dans ce bas monde. En d'autres termes, il nous a décrit et il nous a informé des œuvres qu'il nous convient d'accomplir si nous souhaitons accéder à ce paradis. Et c'est de cela que l'on va parler dans le cours d'aujourd'hui, Incha'Allah Ta'ala. Et pour cela, on va méditer sur quelques versets du Coran. Les premiers versets sur lesquels on va méditer sont les versets 133 à 135 de la sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la première caractéristique de ces gens du paradis, préparés pour les pieux. Ceci est donc la première description des gens du paradis que l'on voit dans ce verset. C'est qu'ils sont pieux. Ils font preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu dans des cours précédents que la piété, elle consiste à accomplir des choses qui vont te préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelles sont ces choses qui peuvent te préserver du châtiment d'Allah? C'est le fait que tu te soumettes à ses ordres en les accomplissant et que tu t'écartes de ses interdits. Donc celui qui est pieux, il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des actes d'obéissance, et ce par espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il va délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et ce par peur de son châtiment. Et ceci est une des caractéristiques des gens du paradis, qu'ils font preuve de piété. Ils se soumettent aux ordres d'Allah et s'écartent des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un peu plus de précision à leur sujet. Il dit subhanahu wa ta'ala Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire ceux qui dépensent leur argent, leurs biens, de la manière qui est légiférée et qui est attendue d'eux, en versant leurs zakat, en donnant des sadaqat, des aumônes volontaires, en nécessitant aux gens dans le besoin, mais aussi en dépensant leur argent pour ceux qui sont à leur charge, comme par exemple le père de famille va dépenser pour son épouse, pour ses enfants, et ainsi de suite. C'est cela qui est demandé. Et il fait partie des caractéristiques des gens du paradis et des gens pieux qu'ils dépensent cet argent aussi bien dans l'aisance que dans l'adversité. Et ceci est une chose à laquelle le croyant se doit de s'habituer. En effet, il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont dans l'aisance, cette aisance les pousse à l'avarice et à désirer augmenter le nombre de biens qu'ils possèdent. Ils cherchent toujours à amasser plus des biens de ce bas monde. Et il tombe alors dans l'avarice. Il a peur de dépenser ses biens, pourquoi? Car il souhaite les amasser, en avoir toujours plus. Et dans l'adversité, dans les difficultés, certaines personnes ont peur de dépenser leur argent, pourquoi? Car ils ont peur d'en avoir besoin. Et ceci s'oppose aux caractéristiques des pieux. Le croyant pieux, serviteur vertueux qui souhaite obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et accéder à son paradis, il se doit de dépenser de ses biens aussi bien dans l'aisance que dans l'adversité. S'il a une zakat obligatoire à donner, il la verse. Il essaye autant que possible de donner des aumônes. Et il dépense son argent pour ceux qui sont à sa charge. Et pour toute autre dépense obligatoire, il ne fait pas preuve d'avarice, car l'avarice ne fait pas partie des caractéristiques des gens du paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset une autre caractéristique, une autre description des gens du paradis. وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْذِ Ceux qui dominent leur rage, qui dominent leur colère. C'est-à-dire que lorsque quelque chose les met en colère en ce qui concerne leur propre personne, ils dominent cette colère et ne se laissent pas dominer par celle-ci. Comme c'est le cas de nombreuses personnes qui sont faibles lorsqu'ils sont en colère, laissent la colère prendre le dessus et celle-ci les pousse à commettre des choses qui ne sont pas louables, comme à prononcer des paroles incorrectes ou alors, pire encore, à transgresser de manière physique sur certaines personnes en les frappant ou alors en cassant des objets ou autres parmi les choses que font certaines personnes lorsqu'ils sont en colère. Donc il fait partie de la description des gens du paradis et des caractéristiques des serviteurs vertueux qu'ils arrivent à dominer leur colère et qu'ils ne laissent pas la colère prendre le dessus. C'est-à-dire que lorsque la colère vient, ils n'outrepassent pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas de rancune et d'animosité envers leurs frères et sœurs. Ensuite, la quatrième caractéristique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset, c'est « وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » et qui pardonne à autrui. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un leur cause du tort au sujet de leur propre personne, alors il leur pardonne. Il pardonne ceux qui ont été injustes envers eux. Il pardonne ceux qui ont été transgressés à leur égard. Et il ne se venge pas. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à la fin de ce verset, « Wallahu yuhibbul muhsinin » car Allah aime les bienfaisants. Et ceci nous indique que le pardon n'est louable que s'il mène à la bienfaisance et qu'il n'est pas louable en toute situation. Il dit qu'il fait partie des caractéristiques des vertueux, des gens qui seront au paradis, inshallah ta'ala, qu'ils pardonnent à autrui, qu'ils pardonnent ceux qui sont injustes envers eux, qu'ils pardonnent ceux qui ont transgressé à leur égard. Mais est-ce que ce pardon est toujours demandé? Est-ce que ce pardon est toujours louable? La réponse est que ce pardon, il est louable s'il mène à la bienfaisance et la réforme. C'est-à-dire que si une personne t'a causé du tort, par erreur, par faiblesse, qu'elle a fait un faux pas, et que ceci ne fait pas partie de ses habitudes, alors il est louable pour toi de la pardonner et de ne pas lui en vouloir. Toutefois, si une personne est connue pour commettre de nombreuses transgressions, elle fait sans cesse preuve d'injustice envers les gens, et ceci se répète sans cesse, alors celui-ci, il n'est pas louable de le pardonner. Car si tu le pardonnes, qu'est-ce qu'il va se produire? Il va recommencer. Et il va continuer de causer du tort aux gens et d'être injuste. Alors que le fait de ne pas le pardonner, ceci peut être une cause pour le faire cesser son injustice. Et c'est pour cela qu'il n'est pas toujours louable de pardonner à celui qui nous a causé du tort. S'il se repent, se réforme, revient à Allah, alors dans ce cas le pardon est louable et il est préférable de lui pardonner. Mais s'il persiste dans son mal, qu'il continue de causer du tort aux musulmans, qu'il continue de calomnier sur eux, qu'ils continuent de mentir sur eux, de leur causer du tort et d'être injuste envers eux, alors dans ce cas, il convient de ne pas lui pardonner, mais de réclamer son droit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, toujours nous décrivant ces gens pour qui un pardon et un paradis, large comme les cieux et la terre, ont été préparés. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et pour ceux qui, s'ils commettent quelque turpitude ou causent quelque préjudice à leurs propres âmes, c'est-à-dire en désobéissant à Allah, en faisant des péchés, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se souviennent d'Allah et implorent son pardon pour leurs péchés. Ce qui est visé par les turpitudes ici, c'est tout ce qui rentre dans les grands péchés, comme le meurtre, la désobéissance aux parents, la consommation d'argent et de biens usuraires, les turpitudes liées aux mœurs, le vol, et ainsi de suite parmi les grands péchés. Et l'injustice envers soi-même, lorsqu'il dit « Odhalamu anfusahum » qui ont causé quelques préjudices à leurs propres âmes, cela est plus général et cela englobe les petits et les grands péchés. Quoi qu'il en soit, les serviteurs vertueux, les serviteurs pieux, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un paradis large comme les cieux et la terre. S'il leur arrive de commettre un grand ou un petit péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rappellent de la grandeur de celui à qui ils ont désobéi. Ils se remettent alors en question, ils se repentent et reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala car ils craignent son châtiment et ils espèrent sa miséricorde et son pardon. Donc ils s'empressent d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs péchés, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur efface ce péché et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve du châtiment qu'encourt celui qui commet ce péché. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ » Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et par cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que ses serviteurs vertueux, ils n'implorent le pardon que d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils n'adorent qu'Allah et ne lui donnent aucun associé, que ce soit dans l'invocation, l'imploration du pardon, ou toute autre adoration, car ils vouent leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il nous dit à la fin de ce verset, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ne persistent pas volontairement dans le péché. Une fois qu'ils ont conscience qu'ils sont tombés dans ce péché, qu'ils savent la grandeur de celui à qui ils ont désobéi, et qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui se repent, alors ils s'empressent de délaisser ce péché. Ils le cessent immédiatement. Ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et se repentent à lui. Quant au fait de persister dans les péchés, en ayant conscience qu'ils font partie des petits et des grands péchés, en ayant conscience qu'en faisant cela, tu encours le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant conscience que ceci, ces péchés, sont une voie menant au feu de l'enfer, alors celui qui fait cela, il est en grand danger. Et il se met lui-même dans une situation qui peut être une cause, le menant au feu de l'enfer, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci était donc quelques annotations concernant ces versets. Passons maintenant au premier verset de Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un certain nombre de caractéristiques des croyants. Puis il termine ces versets en nous disant, après nous les avoir décrits, nous avoir cité leurs caractéristiques, « Oulaika humul warithun alladhina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. » Ceux-là, ce sont les héritiers, ceux qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Donc ceci t'indique que les versets qui ont précédé nous décrivent les gens du paradis, nous décrivent quelles sont les caractéristiques desquelles doit se parer l'adorateur qui souhaite entrer dans ce paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence et nous dit « Qad aflaha al-mu'minun » Bienheureux sont certes les croyants. Et ceci est la première des caractéristiques qui est la foi. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi au jour dernier, et la foi au destin qu'il soit bon ou mauvais. Celui qui souhaite faire partie des gens du paradis, il est impératif pour lui qu'il ait la foi. Car le paradis, il est réservé aux croyants. Et les mécréants, ils n'entreront pas au paradis, mais ils n'auront que le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc, ces gens du paradis, ils se parent de cette caractéristique immense qui est la foi. Bienheureux sont certes les croyants. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un peu plus de détails concernant leur description, concernant leurs caractéristiques. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui font preuve d'humilité dans leur prière. C'est-à-dire que lorsqu'ils prient, leurs cœurs sont présents. La quiétude se manifeste à travers l'immobilité de leurs membres dans les différentes positions de la prière, leur immobilité dans l'inclinaison, leur immobilité dans la prosternation. Lorsqu'ils prient, ils sont conscients qu'ils se tiennent debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont conscients que lorsqu'ils récitent le Coran, qu'ils prononcent des invocations, ils s'adressent à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Ceci fait partie des caractéristiques des croyants qui seront les héritiers du paradis pour y demeurer éternellement. Ils font preuve d'humilité dans leur prière. Et ceci nécessite de toi de la concentration, que tu accomplisses cette prière en étant pleinement concentré sur celle-ci, sans te préoccuper d'autre chose parmi les affaires mondaines, les occupations de la maison, le travail, la famille ou autre. Mais lorsque tu entres en prière, tu vides ton cœur de tout cela et tu te concentres pleinement sur ta prière et sur le fait que tu te tiens debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, c'est-à-dire Allah est plus grand que toute autre chose qui pourrait me préoccuper autre que cette prière. Je suis en train de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois donc me concentrer sur cette prière que j'accomplis afin de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je commence à réciter les invocations d'ouverture, puis Surat al-Fatiha et ainsi de suite, je me concentre sur ces mots que je prononce et je fais preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne m'empresse pas de réciter ces mots à toute vitesse, comme le font nombre de personnes. Je ne fais pas non plus prononcer ces mots sans réfléchir à leur sens, sans chercher à comprendre ce qu'ils veulent dire, comme nombre de personnes qui récitent ces mots et ne cherchent même pas à savoir ce qu'ils impliquent, ce qu'ils prouvent, et ce qu'il signifie. Mais si je souhaite faire preuve d'humilité dans ma prière, je me dois d'apprendre les sens des mots que je prononce dans ma prière, apprendre le sens de ces invocations. Ensuite, je vais m'incliner, et je fais preuve d'humilité dans cette inclination. Je ne m'empresse pas de me relever, mais je m'incline correctement comme il se doit, en tenant mon dos bien droit, en maintenant mes mains sur mes genoux, et je dis « Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim » et je me concentre sur cette parole, pureté à Allah, l'immense. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut. Et il est immense, subhanahu wa ta'ala. Puis je me relève de cette inclinaison. Et pareil, dans cette deuxième station debout, je prends le temps de maintenir un temps d'immobilité. Car la quiétude fait partie des piliers de la prière. Je maintiens un temps d'immobilité, je prononce les paroles qui sont légiférées. Puis je redis Allahu Akbar et je pars en prosternation. Cette prosternation, comme on a vu, qui est la position dans laquelle tu es le plus proche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, tu vas prononcer ce qui est légiféré comme formule de rappel d'Allah, subhana rabbi al-a'la, pureté à Allah, le Très-Haut. Puis ensuite, tu vas multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui adresser tes demandes, car Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de l'invoquer. Et il t'a promis que si tu l'invoques, alors il va répondre à ton invocation. Et ainsi de suite, tu fais dans l'ensemble de ta prière. Tu fais preuve d'humilité aussi bien à travers tes membres, en t'appliquant dans chacun des gestes de ta prière, mais également à travers tes paroles, en les prononçant comme il se doit, et en te concentrant sur le sens de ces paroles. Et également, tu fais preuve d'humilité intérieurement, comme on a dit, en vidant ton cœur de toute autre préoccupation que cette prière, en ayant conscience que rien n'est plus important que cette prière, car tout ce qui te préoccupe en dehors de cela, parmi les occupations mondaines, que ce soit sur le plan du travail, plan familial ou autre, tout ceci est voué à disparaître. Alors que cette prière, bi'idhnillahi ta'ala, elle fait partie de tes provisions que tu emmèneras avec toi dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. C'est celle-là que tu vas retrouver dans ta tombe. C'est celle-là que tu vas retrouver au jour de la résurrection. Et ce sera une des causes, parmi les causes, qui te feront, bi'idhnillahi ta'ala, obtenir l'agrément d'Allah et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde et te fera entrer au paradis. Il fait donc partie des caractéristiques des croyants qui seront les héritiers du paradis pour y demeurer éternellement qu'ils font preuve d'humilité dans leur prière. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » Ceux qui se détournent des futilités. Les futilités, c'est toute chose qui n'a aucun intérêt, qui ne contient aucun bien, parmi les paroles et les actes. Donc les croyants qui désirent être les héritiers du paradis, ils se détournent des futilités. Pourquoi ? Car ils savent que le temps, c'est une des choses les plus précieuses qui leur a été accordée. Ils ont conscience de la valeur de ce temps. Et ils ont conscience que ce temps dans ce bas monde il a une fin, qu'un jour leur vie prendra fin, que leur âme leur sera retirée, et qu'ils seront questionnés au sujet de ce temps dans quoi ils l'ont passé. Donc, ils prennent garde à ne pas perdre de ce temps précieux dans des futilités, dans des choses qui ne les rapprochent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne leur permettent pas d'alourdir la balance de leurs bonnes actions. Donc de la même manière qu'ils ont préservé leur prière en faisant preuve d'humilité, ils préservent leur temps de la perte, et ce, en le préservant des futilités en s'y détournant. Mais ils n'occupent leur temps que par ce qui leur est profitable, ce qui va les mener à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à alourdir la balance de leurs bonnes œuvres, et ce qui les mènera au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Alors que dire de ceux qui passent leur temps dans des choses qui sont interdites et nuisibles? Il n'y a pas de doute que leur situation est beaucoup plus dangereuse et encore plus grave. S'il fait partie des caractéristiques des croyants qui seront les héritiers du paradis, qu'ils se détournent des futilités, alors à plus forte raison ils se détournent de ce qui est nuisible parmi les péchés et autres. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, toujours nous décrivant ses serviteurs croyants qui vont hériter du paradis, « وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ » ceux qui s'acquittent de la zakat, c'est-à-dire la zakat obligatoire, qui versent leur zakat afin de purifier leur âme et de purifier leurs biens. Donc ils s'acquittent de cette aumône obligatoire, au sujet de laquelle on a vu un certain nombre de détails dans un cours précédent cette semaine. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala, toujours nous décrivant ses serviteurs croyants, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Et ceux qui préservent leur chasteté, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves en leur possession, car en cela, on ne peut les blâmer. Donc il fait partie des caractéristiques des croyants qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement, qu'ils préservent leur chasteté. C'est-à-dire qu'ils préservent leur chasteté en s'éloignant des turpitudes, en s'éloignant des relations interdites, pour tout ce que cela comporte comme corruption, aussi bien sur le plan moral que sur le plan social. Et également, entre dans cela, entre dans le fait de préserver sa chasteté, ce qui est plus large que le simple fait de commettre la turpitude. Mais cela englobe également le fait de se préserver du toucher, mais aussi du regard. C'est-à-dire que les croyants, ils vont se préserver du toucher qui est interdit, et ils vont également s'écarter du regard de ce qui leur a été interdit de regarder. Il est venu dans un hadith rapporté par Tabarani et Al-Bayhaqi, rahimahumallahu ta'ala, et qui a été jugé bon par l'imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous s'enfonce une aiguille de fer dans sa tête est préférable pour lui que le fait qu'il touche une femme qu'il ne lui est pas permise. Ceci nous montre la gravité de ce péché qui est de toucher une femme étrangère ou que la femme touche un homme étranger, ne serait-ce que par une poignée de main, même s'il n'y a aucun désir en cela. Ceci nous a été strictement interdit. Donc le fait de s'écarter de cela, cela fait partie des caractéristiques des croyants qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Et également, ils préservent leur regard. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Ceci est plus pur pour eux. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nous faire comprendre que cet ordre ne s'adresse pas seulement aux hommes, mais qu'il s'adresse aussi aux femmes. Il dit ensuite, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et qu'elles préservent leur chasteté. Donc en baissant le regard, premièrement tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également ceci est une cause pour préserver ta chasteté, car ceci va couper court à la route menant à la turpitude. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et n'approchez pas la fornication, la turpitude. Les gens du tafsir ont dit que l'interdiction du fait de s'en approcher est bien plus stricte que le simple fait d'interdire de la commettre. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de l'approcher, Cela signifie qu'il nous a interdit également toute chose menant à cela. Toute chose menant à la turpitude. Et entre dans cela, comme on a dit, le regard. Donc les croyants et les croyantes qui aspirent à entrer au paradis, ils se doivent de préserver leur regard. Préserver leur regard dans la rue, mais également aussi préserver leur regard derrière leurs écrans, que ce soit les écrans d'ordinateur, de téléphone ou autre. Et s'il fait cela, alors, il aura préservé sa chasteté et se sera paré de cette caractéristique qui fait partie des caractéristiques des croyants qui hériteront du paradis pour y demeurer éternellement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, continuant de nous décrire ces croyants qui hériteront du paradis, « وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ » Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés et qui honorent leurs engagements. L'honnêteté et le fait de préserver les dépôts qui te sont confiés, cela fait partie des caractéristiques des croyants. Et entre dans cela le fait que, lorsqu'on te prête un objet, tu en prends soin. Et tu fais tout ton possible pour le préserver de toute dégradation, afin de le rendre dans le même état qu'il était lorsque tu l'as emprunté. Également lorsque quelqu'un te demande de surveiller un de ses biens, tu honores cet engagement en surveillant son bien et en prenant garde que il ne soit pas abîmé et que rien ne l'atteigne comme nuisance. Et entre dans cela également les paroles qui te sont confiées. Lorsque quelqu'un te confie un secret, il te confie une parole, il te dit « Je vais te dire une chose, mais tu n'en parles à personne. » Ou alors, comme l'ont mentionné les gens de science, comme il est venu dans certains hadiths, le simple fait que la personne te dise une parole et se tourne pour regarder qu'il n'y a personne autour d'elle en train de l'écouter. Ceci signifie qu'elle est en train de te confier un dépôt, une parole qu'elle ne souhaite pas que tu rapportes aux autres. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'on leur confie un secret, qu'on leur dit « Je te dis une parole, mais tu n'en parles à personne », cela anime immédiatement en eux le désir d'aller transmettre cette parole. Tout de suite, ils cherchent une personne à qui il va aller transmettre ce dépôt qui lui a été confié. Et ceci est un péché. Donc il fait partie des caractéristiques des croyants qu'ils prennent soin des dépôts qui leur sont confiés. Comme on a dit, que ce soit un objet ou que cela soit un secret ou une parole qui t'a été confiée. Et il fait partie des caractéristiques des croyants également qu'ils honorent leurs engagements. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'engagent à faire quelque chose, alors ils font tout leur possible pour tenir à cet engagement. Et entre dans cela les contrats faits entre les gens et ainsi de suite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, insistant une fois de plus sur l'importance de cette adoration immense, qui est la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, le pilier de la religion, le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Il dit donc, subhanahu wa ta'ala, « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » Et ceux qui sont assidus à leur prière, c'est-à-dire qui observent leur prière de la manière la plus complète, en accomplissant l'ensemble de leurs conditions, en accomplissant l'ensemble de leurs piliers et de leurs obligations, et en veillant à faire ce qu'ils peuvent comme chose recommandée dans cette prière, afin qu'elle soit la plus complète possible. Et parmi les conditions les plus importantes de la prière, le fait qu'ils les accomplissent en leur temps. Car chaque prière a son temps déterminé. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. En vérité, la prière demeure pour les croyants une obligation à des temps déterminés. La prière a un temps, il t'incombe donc d'accomplir cette prière en son temps. De la même manière que tu n'accepterais pas de te dire je ne vais pas jeûner durant le mois de Ramadan, mais je vais jeûner durant le mois de Muharram. Alors il en est de même pour la prière. Tu ne vas pas te dire « je ne vais pas faire le dhuhr à 14h, mais je vais le faire à 20h. » Car ceci n'est pas son temps. Et la prière, il est obligatoire de l'accomplir dans son temps qui a été déterminé. Et le fait d'être assidu en cela et d'accomplir sa prière de la manière la plus complète, en veillant à parfaire ses piliers, parfaire ses obligations, comme on l'a dit, à chaque mouvement de la prière, à chaque parole de la prière, alors ceci fait partie des caractéristiques des croyants. Ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite « Ulaika humul warithun » Ceux-là sont les héritiers. « Alladhina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun » Donc vous voyez à travers ces versets la description des gens du paradis. Quelles sont les caractéristiques desquelles doit se parer celui qui souhaite atteindre ce paradis éternel? Celui qui souhaite faire partie de ceux qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Comme on a dit, entre dans cela, et c'en est la base, la foi. faites de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la piété, et ainsi de suite parmi les caractéristiques qu'on en a mentionnées, comme le fait de faire preuve d'humilité dans la prière, de tenir ses engagements, de préserver les dépôts, de préserver sa chasteté, de retenir sa colère, de pardonner à autrui s'il y a un bien en cela, et ainsi de suite parmi les caractéristiques que l'on a vues dans le verset. Et les gens du paradis, ils ont encore de nombreuses caractéristiques qui nous ont été mentionnées dans de nombreux textes et dans de nombreux hadiths, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous parer des caractéristiques des gens du paradis. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.